Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, la prochaine crise a déjà sa date fixée, d'après plusieurs experts, dont Nouriel Roubini, ça serait 2020.
Eh oui, l'actuelle expansion devrait se poursuivre encore l'année prochaine grâce aux extravagants déficits budgétaires américains et la politique chinoise du crédit. Mais la politique de Trump n'est pas tenable. La surchauffe va se traduire par de l'inflation, ce qui va contraindre la Fed à resserrer le crédit. Et les autres banques centrales seront contraintes de suivre. Donc, oui, dirait Madame Irma, attendez-vous à une récession mondiale en 2020. Très bien, mais qu'en sera-t-il de nous autres en Europe ? Avons-nous su imaginer les contre-feux qui nous permettront d'éviter la catastrophe de 2009 dont nous payons encore les conséquences sur le plan politique ? L'économie européenne fait face à un ralentissement. Voilà ce qu'écrit Lucrezia Reichlin, professeure à la London Business School. En fait, la tendance baissière est nette. Certes, la croissance a été relativement satisfaisante, au moins à l'échelle des piètres performances de l'ensemble européen au cours des années 2016 et 2017, mais le pic a été atteint au troisième et quatrième trimestre de l'an dernier, et depuis, la croissance en Europe ne cesse de ralentir dans toute la zone euro et même en Allemagne. Le plus préoccupant, c'est que le redémarrage de nos économies avait été provoqué par les fameux moyens non conventionnels, une politique monétaire très expansive, mais visiblement, les effets qu'on pouvait en attendre sont maintenant en train de s'estomper et le taux de chômage de la zone continue à tourner autour du pourcentage déprimant de 8%. Du coup, poursuit Lucrezia Reichlin, la zone euro va devoir faire face, aussitôt après les élections au Parlement européen, à deux catégories de problèmes structurels. Ceux qui préexistaient à la crise de 2008 et d'autres qui sont nés depuis. Comme avant 2008, les coffres des banques dans certains pays européens contiennent encore des actifs très suspects, ce qui les fragilise. Le haut niveau d'endettement de plusieurs pays européens pose aussi un défi à la croissance. Mais surtout, si une véritable récession avait lieu dans un proche avenir, les moyens pour la combattre resteraient limités. La zone euro s'est dotée de nouveaux outils au cours de la dernière crise, comme l'union bancaire, mais ceux-ci, dans l'ensemble, demeurent incomplets. Et surtout, l'outil massue, l'écrasement des taux d'intérêt, ne pourra pas resservir. Elle est encore en service. Un nouveau programme de rachat des dettes poserait d'énormes problèmes, tant économiques que politiques. Alors la riposte adaptée à une nouvelle réception serait un stimulus fiscal, une baisse massive des impôts. Mais elle ne pourrait avoir lieu que de manière coordonnée dans le cadre de la zone euro tout entière. Or, comme on sait, beaucoup d'États membres refusent encore toute idée de politique fiscale commune. Alors ce qui rassurerait les marchés financiers aujourd'hui, c'est que d'ores et déjà les dirigeants des États membres annoncent ce qu'ils sont prêts à faire ensemble dans le domaine lorsque la récession se produira. Autre préoccupation, une nouvelle récession aurait le double inconvénient de diviser les marchés financiers selon les frontières nationales, alors même que les intérêts des banques européennes sont liés.
Alors Brice, voilà pour les défis structurels. Maintenant, qu'en est-il des défis conjoncturels ?
Oui, parce que outre ces problèmes structurels qu'elle trimballe depuis longtemps, l'Europe va devoir faire face en effet à d'autres défis, tout aussi préoccupants. Le risque d'un divorce sans possibilité d'accord avec les Britanniques, on en a parlé beaucoup ici à Culture Monde, et celui de l'explosion potentielle de la dette italienne. Depuis des années, écrit ainsi l'économiste britannique Jim O'Neill, le monde de la finance se demande quand l'Italie va faire défaut. Mais les Italiens sont toujours parvenus à trouver toujours encore de nouveaux prêts pour rembourser les intérêts d'une dette dont rien ne semblait pouvoir arrêter l'accroissement. En réalité, les problèmes de l'Italie préexistaient même à son adhésion à la monnaie unique. Sa productivité était faible selon des standards européens. Le pays connaissait des crises cycliques auxquelles il réagissait en dévaluant régulièrement sa monnaie. Avec l'euro, ce genre de défaut n'est plus possible. Aujourd'hui, certains Italiens regrettent ces temps bénis de facilité monétaire, mais ils ne réalisent pas que c'est grâce à l'euro que l'Italie jouit aujourd'hui d'une inflation faible et de taux d'intérêt très bas. Alors la coalition des populistes de droite, Liga, et des populistes de gauche, 5 étoiles, actuellement au pouvoir, applique une politique absurde, consistant d'un côté à baisser les impôts et de l'autre à mettre en œuvre une politique de revenu universel très coûteuse. Ils sont non seulement en train de gâcher les chances de leur pays de poursuivre les réformes qui auraient pu rétablir sa productivité, mais en outre, ils menacent notre monnaie commune. La Commission a laissé le déficit de certains États, dont le nôtre d'ailleurs, dépasser le fameux plafond des 3% parce que leur situation financière globale inspirait plutôt confiance. Eh bien, tel n'est pas le cas de l'Italie, qui est une bombe à retardement.